Il y a une bonne ambiance dans la maison du Seigneur. Hein? Ce matin, je vais vous parler un petit peu d'une chose. Donc, c'est concernant le zèle. Concernant le zèle. Dimanche dernier, j'ai parlé sur l'importance de vivre une vie de victoire. Et je crois qu'il n'est pas possible de vivre une vie de victoire si nous ne sommes pas zélés, s'il n'y a pas dans notre vie un minimum de zèle. C'était Charles Studd, qui était un missionnaire renommé, mais du 19e siècle, fils d'un riche planteur de thé et champion de cricket, qui donna toute sa fortune et devint un missionnaire fameux. Sa devise était celle-ci: « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je puisse faire pour lui. » C'est une belle devise. Amen. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je puisse faire pour lui. Et peut-être que pour vous, après cette période de confinement prolongé, venir à l'église, c'est un sacrifice. Mais j'aimerais nous rappeler que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Alors le zèle, c'est ce sentiment d'ardeur. C'est l'empressement au service de quelqu'un ou d'une idée. Une vive application à très bien faire son travail. Étymologiquement, le zèle, c'est aussi la jalousie. C'était une jalousie, une sainte jalousie qui a amené un certain zèle. Et donc, cité, on avait du zèle pour le Seigneur. Amen. Parce qu'on avait pris conscience de tout l'amour, la grâce, la bonté de Dieu. Mais parfois, avec le temps, on peut s'installer confortablement. Et l'apôtre Paul, dans le contexte du combat spirituel, va dire ici qu'il est important non seulement d'avoir le bouclier de la foi, d'avoir la cuirasse de la justice, d'avoir le casque du salut, mais il dit aussi « mettez pour chaussure ». À vos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix. L'Évangile, je dirais, nous fait courir. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme quand on tombe amoureux pour la première fois. On parle de la bien-aimée ou du bien-aimé à tout le monde. On est un peu comme dans le Cantique des Cantiques. On fait des poèmes, on écrit des belles lettres parce qu'il y a une vibration à l'intérieur. Mais mes amis, on a besoin aussi face au combat spirituel, face à l'adversité qui existe dans le monde et autour de nous, on a besoin d'être zélés pour marcher. Les chaussures, c'est fait pour marcher, oui ou non ? Et Jésus dit, Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Ça, ce sont des paroles qui sont finalement données pour nous encourager et nous rassurer aussi. Nous n'avons pas à craindre l'adversité, nous n'avons pas à craindre les ténèbres. Amen. Donc le zèle, c'est une injonction. Le zèle, c'est aussi quelque chose, quand on le possède, qui nous dévore. C'est quelque chose de dévorant. C'est quelque chose de brûlant. C'est une passion, c'est une flamme à l'intérieur de notre cœur. Le psalmiste disait dans le psaume 119, verset 139, « Mon zèle me consume. » Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ou encore le psaume 69, verset 10, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Vous savez, ce texte, le zèle de ta maison me dévore, c'est un texte qui a été repris par notre Seigneur Jésus, ou plutôt qui a été appliqué au Seigneur Jésus lorsque celui-ci est entré dans le temple de Jérusalem et puis qu'il a constaté que dans le temple, il y avait des choses qui avaient pris place et qui n'étaient pas belles, qui avaient pris la place de Dieu finalement. Et vous savez, dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean va dire que Jésus va se fabriquer un fouet. Et puis le doux Jésus, amen, j'avais aussi un message ce matin sur l'humilité, mais je le garde pour plus tard. Mais Jésus, le Seigneur doux et humble de cœur, à ce moment-là va se fabriquer un fouet et puis avec vigueur, il va chasser tous les marchands du temple. Pourquoi ? Parce que le zèle de la maison de Dieu, pardonnez-moi l'expression, le bouffe intérieurement, le dévore. Et il ne peut pas tolérer un seul instant qu'il y ait dans la maison du Seigneur des choses illicites, des choses mauvaises. Alors il va faire le ménage et il va mettre tout, eh bien, le péché dehors. Bon, je lisais un témoignage, j'aime bien les témoignages parfois, ça illustre, ça donne des fenêtres un petit peu au message et à la prédication de la parole de Dieu. Alors accrochez-vous, je sais qu'il y a des enfants, peut-être qu'ils sont là, mais c'est une histoire authentique. C'était un soldat russe qui avait été prisonnier par les Français pendant la guerre de Napoléon. Donc c'est un récit ancien. On l'avait conduit dans un corps de garde en attendant de l'envoyer à l'arrière. Et les soldats se moquaient de cet homme qu'ils sentaient très différent d'eux. Sous leur quolibé, il restait impassible. Son visage devenait impénétrable. « Marquons-le !» s'écria l'un des soldats. Et s'empara d'un fer rouge, il traça sur la main du prisonnier la lettre N. Ce dernier regardait sa main sans bien comprendre, mais soudain il réalisa qu'on l'avait marqué de la lettre initiale de l'empereur des Français. D'ailleurs, il ne pouvait se méprendre en entendant les gros rires qui secouaient toute la salle. À peine eut-il compris qu'un éclair passa dans ses yeux, s'emparant d'un grand coutelas, d'un couteau abandonné sur une table, et d'un seul coup, mes amis, et sans aucune hésitation, il se trancha le poignet, prenant de l'autre sa main coupée et la jeta dédaigneusement à travers la table à ses tourmenteurs médusés. « Prenez ce qui appartient à votre empereur. Pour moi, j'appartiens tout entier à mon tsar. » Cet épisode, qui est, paraît-il, authentique, ne nous fait-il pas penser à la parole de Jésus qui disait « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Vous savez, ça peut parfois paraître radical, choquant, énergique, mais quand l'ennemi veut prendre possession du temple du Seigneur, il est important que nous agissions en retour avec vigueur, parce que l'ennemi de nos âmes, lui, met le paquet. Et il n'est pas tendre. Et Jésus nous a appelés à être radicaux. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans ces extrêmes-là. Mais il y a parfois des choses qui voudraient, dans nos vies, se saisir de nous et nous devons être vigoureux, frères et sœurs. Amen, oui ou non? Oui, c'est important de ne pas être, de pas tolérer, d'avoir finalement une tolérance zéro vis-à-vis du péché. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été sauvés, scellés, marqués par la grâce de Dieu ». Oui, frères et sœurs, le zèle de la maison de Dieu doit nous dévorer. C'est saint Augustin, je ne dis pas qu'il faut faire également la même chose, mais qui avait des problèmes avec le sexe opposé. Vous savez ce qu'il a fait, lui? Il s'est enlevé ses parties. Bon, vous allez me dire peut-être que c'était excessif également. Mais vous voyez, il a été radical. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte pour vous et pour moi au final? Qu'est-ce qui compte? C'est d'aller au ciel, oui ou non? Donc s'il y a des choses qui sont pour nous des occasions de chute, eh bien, ces choses, il faut s'en séparer. Sans aller, bien sûr, dans ces extrêmes. Jésus ne disait pas qu'il fallait faire cela, gloire à Dieu. Mais il y a parfois des décisions à prendre. Il y a parfois des fréquentations qui nous sont nuisibles. Et je dis ça peut-être en particulier pour la jeunesse. Pour les jeunes qui grandissent, qui évoluent dans des contextes avec des influences mauvaises. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est l'histoire de la pomme pourrie dans le panier. Elle va finir par contaminer les autres. Et si on se prend pour plus que ce que l'on est, au final, la Bible dit que, eh bien, on peut tomber. Alors le zèle, c'est quelque chose qui consume, c'est quelque chose qui dévore. Le zèle, je dirais, je vais un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui doit être renouvelé constamment. Il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 17. Est-ce que vous avez pris votre Bible, frères et sœurs? Non, hein? Maintenant on s'habitue aux écrans, tout ça, mais c'est bien de prendre la parole de Dieu. Amen. c'est bien d'amener la Bible à l'église, parce que vous savez quoi, l'ordinateur, ça peut tomber en panne. Mais le livre, si vous l'avez, vous l'avez. Il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 17, c'est un homme qui a été renouvelé dans son zèle. 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 17, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Il est question de Tite, d'un nouveau zèle. Est-ce que vous n'aimeriez pas ce matin avoir un nouveau zèle ? Être renouvelé dans votre zèle. Pourquoi ? Il est question ici d'un nouveau zèle parce que le zèle, ça peut se perdre. Le fer de la hache peut s'émousser. Notre tranchant peut perdre de son tranchant, justement, et de son efficacité. Alors il est important que nous soyons tout le temps renouvelés par la grâce de Dieu d'un nouveau zèle, comme disait l'ancien cantique, embrasés d'un nouveau zèle. Alléluia ! Pour aller faire connaître la bonne nouvelle. Amen. Vous savez, la Bible parle d'un homme qui avait déployé tout son zèle pour le Seigneur et puis qui, à un moment donné, au final, avait le moral dans les chaussettes. Et il avait besoin aussi de retrouver son zèle parce qu'il avait fait, à un moment donné, il avait déployé une énergie fantastique. On sait de qui on parle, d'Élie, de cet homme de Dieu remarquable. C'était un géant, Élie. C'était le the man of God de l'époque. Il va faire descendre le feu du ciel. Vous connaissez l'histoire. Il va confronter tous les faux prophètes. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit qu'il y a cette femme Jézabel qui va commencer à parler à son âme. Et là, le grand Élie, qui était plein d'assurance, plein d'ardeur, plein de zèle, à l'écoute de la voix de cette femme, la Bible dit qu'il a eu peur. C'est étonnant. Il n'a pas eu peur de confronter des centaines de faux prophètes. L'Écriture dit même qu'il leur a tranché la gorge. Et là, une femme va parler, comme quoi l'ennemi parfois est tenace. Tenez donc ferme après avoir tout surmonté. Et là, il va perdre complètement le contrôle. Et l'Écriture dit qu'il va laisser son serviteur, qu'il va s'enfuir dans le désert et qu'il va aller dans une caverne. Il va demander la mort. Alors, je ne sais pas ce matin où nous en sommes en ce qui concerne notre zèle, ou je dirais notre punch. Notre motivation, notre désir pour Dieu, notre intensité pour le royaume. Amen. Je ne sais pas où vous en êtes, mais ce que je sais, c'est que de regarder trop l'Église et de plus vivre l'Église, ça peut être dangereux. Et moi, je dis, il est temps de se relancer, frères et sœurs, dans la passion que Jésus veut nous donner. Amen. C'est bien, vous êtes gentils. Vous encouragez votre pasteur, qui est plein de zèle, plein de feu, plein de fougue ce matin. Mais ce pauvre Élie, à un moment donné, il a réalisé, il était complètement brisé, cassé, découragé. Alors, ce qui est bon, c'est qu'on a un Dieu merveilleux. Amen. On a un Dieu qui est plein de bonté, plein de tendresse, qui ne nous laisse pas tomber quand on est découragé, quand on n'en peut plus, quand on est au bout du rouleau. Il dira dans 1 Roi 19:10, alors que le Seigneur vient lui parler, il lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais dans cet état ? Qu'est-ce que tu fais à broyer du noir ? Est-ce que je ne suis plus avec toi ? Est-ce que je t'ai abandonné ? Non, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Amen. Les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Il est dit dans 1 Roi 19:10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. En réalité, il se trompait, Élie, parce que quand on est découragé, on pense faussement. On se fait des idées fausses, on se trompe. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. La vérité, c'est que ce que Dieu a commencé avec nous, mes amis, il va l'amener à son achèvement et à sa perfection. La vérité, c'est comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, rien ne pourra nous nuire. Amen, pasteur Yvan. Le zèle, je vais plus loin, c'est non seulement quelque chose qui doit être renouvelé, mais le zèle, c'est aussi quelque chose de contagieux. Vous savez, il y a des gens qui sont contagieux avec le négatif. On peut se communiquer des choses, hein, à part le Covid, c'est pour ça qu'on met le masque. On peut se communiquer aussi des esprits. Il y a parfois des transferts d'esprit, il y a des ambiances. Il y a des gens qui sont chargés à bloc, non pas du Saint-Esprit, mais chargés à bloc de peur, à bloc d'incrédulité. Et en passant du temps, finalement, dans la présence de certaines personnes, on peut sortir découragé, n'est-ce pas ? Mais le zèle, c'est aussi quelque chose qui se communique. C'est aussi quelque chose qui se transfère, qui se donne. 2 Corinthiens 9, verset 2 dit ceci, « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. » Il écrivait aux Corinthiens, « En déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et écoutez ceci, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Alléluia. Le zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Bon, si il n'y avait pas autant de distance, mais même avec la distance, tu peux dire à ton voisin, attention, je suis contagieux. Si tu me fréquentes un peu trop, tu vas avoir envie de prier. Tu vas avoir envie de servir le Seigneur. Et là, dans le contexte, c'est donner ta dîme. Votre zèle a stimulé plusieurs. À stimuler le plus grand nombre. Bien-aimé, c'est important le zèle. Et il semblerait, je vais encore plus loin, il semblerait que le zèle, ce soit quelque chose d'important, notamment pour ceux qui sont en position de leadership. Et toi, si tu es en leadership, dans ta famille par exemple, on est tous des leaders, hein. Puis des fois, on dit, bien, va à la réunion, fiston, mais le père, il reste dans le canapé. Voyez, va prier, mais toi, tu ne pries pas. Et en réalité, le zèle, c'est quelque chose qui est nécessaire pour tous ceux qui sont en position de leadership. Imaginez ce matin que je vienne sur l'estrade et que je sois découragé. Qu'est-ce que je vais vous communiquer ? Du découragement. Si je viens, que je suis endormi, assoupi, que j'ai un esprit d'assoupissement, puis que ça me coûte de venir à l'église, que je ne sois pas en feu. Qu'est-ce que je vais communiquer aux gens ? Voyez ? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, Romains 12, verset 8, « Et celui qui exhorte à l'exhortation, les questions de certains dons qui sont donnés, que celui qui donne le fasse avec libéralité, générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle. » C'est le même mot. C'est-à-dire celui qui gouverne, celui qui donne une direction. Il est important que celui qui fasse chanter soit plein de feu, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Il est important que celui qui prêche ou qui rend témoignage le fasse avec zèle, en croyant que ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Amen. Eh oui. Donc, c'est important. Le zèle, bien entendu, je vais un petit peu plus loin dans sa définition biblique. Le zèle, selon Dieu aussi, c'est non seulement quelque chose d'important, mais il y a des zèles qui sont négatifs. Il y a un type de zèle négatif. Par exemple, le zèle peut être excessif. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 1er, au verset 14. Pour parler de lui, l'apôtre Paul dira qu'il était animé, avant de rencontrer le Seigneur, d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'observons plus des traditions, nous observons des instructions. Ce sont les instructions du Seigneur qui nous donnent le repos. Mais le zèle selon Dieu n'est pas un zèle déséquilibré et excessif. Le zèle selon Dieu, c'est un zèle sage et pondéré, parce que la Bible dit aussi par ailleurs, « Sois sobre en toute chose. » Le zèle peut-être également sans intelligence. C'est Paul qui parle de ceux qui ont du zèle pour Dieu, Romains 10, 2, sans intelligence. On peut faire les choses parfois bêtement. On peut être ancré dans des traditions parce qu'on a toujours fait comme ça. On fera toujours comme ça. Et on refuse le changement. On refuse de s'améliorer. On chantait assis. Aujourd'hui, non. Moi, je ne veux pas chanter debout. C'est quoi ? C'est une nouvelle mode, ça ? Voyez, on refuse d'entrer dans les changements. On refuse peut-être de lever la main, j'en sais rien. On refuse d'entrer dans certaines modifications parce qu'on a des habitudes, parce qu'on a toujours fait comme ça. Vous savez, le Seigneur nous demande de réfléchir, d'avoir un zèle, mais éclairé, intelligent. Et il est dit dans le psaume 32, verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Dieu ne nous a pas appelés à être des mulets et des chevaux qui courent jusqu'à la mort, mais Dieu nous a appelés à être sages et intelligents. Amen. Le zèle peut être également amer, peut être parfois dans l'amertume, et il est important que le Seigneur guérisse les amertumes de nos cœurs. Il est dit dans Jacques au chapitre 3 et au verset 13, c'est un texte important. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute. » Vous savez, il y a des gens, ils sont toujours en train de voir le négatif, toujours en train de critiquer, toujours en train de chercher la petite bête, le zèle amer, l'esprit dispute. Il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Le zèle amer. Alors, j'aimerais, en terminant, parce que je sais que vous respirez votre dioxyde de carbone, j'aimerais juste voir trois directions en terminant dans laquelle il est important ce matin d'avoir du zèle, d'être zélé pour le Seigneur. Ésaïe au chapitre 16 et au verset 5, il est dit « Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. » Vous savez, la justice, être juste selon Dieu, c'est important. Jésus dira « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Alors bien sûr, on est rendu juste par la foi en Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On est justifié par la foi. Mais n'empêche que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, on ne peut pas avoir passé et inaperçu la mort de George Floyd, de cet homme noir qui a été asphyxié violemment par un policier. Ce n'est pas parce qu'on a des droits qu'on peut abuser du pauvre et du faible. Et dans toute l'Écriture, dans toute la parole de Dieu, Dieu a toujours condamné l'injustice et la violence. Par exemple, savez-vous que Dieu est contre le racisme ? Que l'Église n'est pas une communauté ségrégatrice, qui, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire, qui sépare les gens. La ségrégation, je pense que la conjugaison n'allait pas le faire. La ségrégation n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que Martin Luther King s'est battu violemment contre l'injustice sociale, contre les à l'époque, bien sûr. Et aujourd'hui encore, il y a encore du racisme, il y a encore des injustices, il y a encore des choses comme ça qui sont là. En réalité, si on se pense être meilleur que les autres, c'est que dans notre tête. Parce que personne n'est mieux que son frère. On est tous des frères et des sœurs d'humanité. Même les gens qui ne connaissent pas Jésus, j'allais dire surtout, il faut les aimer. Il faut aller vers eux. Mais parfois, on peut être surpris, frères et sœurs, par des propos limites dans le corps de Christ. L'Église est belle parce qu'elle est diversifiée. Amen. Ça, c'est vrai non seulement avec les races, mais c'est vrai, par exemple, avec les petits. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont fait des études, soi-disant, des hautes études. Ils se prennent un peu plus intelligents que les autres. Mais vous savez, en réalité, la vraie intelligence, ça n'a rien à voir avec l'instruction et l'accumulation des diplômes. La vraie intelligence, vous savez ce que c'est la vraie intelligence ? La Bible dit que c'est celui qui cherche Dieu. C'est celui-là qui est intelligent. Et le fou, selon Dieu, c'est celui qui fait des mauvais calculs. C'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. C'est celui qui amasse pour lui-même. C'est celui qui vit pour sa propre chair, etc. Donc, nous sommes tous et toutes appelés à pratiquer la justice avec zèle. Alléluia. En réalité, la pratique de la justice est un ordre divin. Dieu dit dans Michée chapitre 6 verset 8 « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Deuxièmement, le zèle dans une direction de travail et de bonnes œuvres. Tite 2, verset 14, il est dit « C'est le Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour la justice, zélé pour les bonnes œuvres. » Amen. Vous savez que le Seigneur nous a recréés en Jésus-Christ ? Oui, et nous sommes des créatures merveilleuses. Oui, nous sommes beaux. Oui, nous sommes précieux. Oui, nous sommes uniques. Amen. La Bible dit, Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage. Littéralement, nous sommes son poème. Amen. Dans ma vie, ça rime. Dans ma vie, il y a des bonnes notes. Dans ma vie, il y a de la joie. Dans ma vie, ça pétille. Amen. Dans certaines vies, il y a des ratures, il y a des fautes d'orthographe, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas. Mais le Seigneur veut faire de notre vie un poème. Le Seigneur veut faire de ta vie quelque chose de beau à voir. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais on est sauvé pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur a préparé un travail pour toi. Peut-être que le Seigneur a préparé une œuvre, une tâche spécifique pour toi. Peut-être que le Saint-Esprit, mais pour cela, il faut être sensible au Saint-Esprit, va te demander d'aller parler à ton voisin. Amen. Ah ben, peut-être tu vas dire, moi, mon voisin, je ne peux pas lui parler parce que je me prends la tête avec lui. Parce que quand il taille la haie et tout ça, il fait n'importe quoi. Eh oui, mais on doit être aussi connu pour notre douceur. Amen. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit a des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce serait vraiment dommage qu'arriver au ciel, le Seigneur nous dise, vois tout ce que j'avais préparé, tout ce que j'avais prévu pour toi. Et puis finalement, tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas expérimenté. Alors bien sûr, les œuvres du Saint-Esprit, parfois, ça demande du courage, ça demande de la disponibilité, ça demande de l'écoute, ça demande de la foi. Parce que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous conduit qu'il n'y aura pas des luttes et des combats. On peut être conduit dans les œuvres de Dieu et malgré tout, il faut aussi mettre la main à la pâte. Et c'est pour la raison pour laquelle il est important qu'on soit zélé, qu'on en veuille pour Dieu, qu'on garde nos motivations. Qu'on ne soit pas comme Élie, des démotivés. Amen. Alléluia. Et troisièmement, le zèle pour ce qui est bien. Galates chapitre 4, verset 18, il est dit, « Il est beau d'avoir du zèle. » Amen. Galates chapitre 4, verset 18, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. » Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, c'est-à-dire un zèle responsable, mais un zèle pour ce qui est bien. Vous avez remarqué qu'on est facilement porté. On n'a pas besoin de nous pousser à faire le mal. Par contre, pour faire le bien, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du secours du Seigneur. Alors je dirais en terminant, frères et sœurs, ayons du zèle pour ce qui est bien. Voici ce qui est bien. Il est bien d'annoncer l'Évangile. Amen. Vous qui nous regardez à la télévision, il est bien de revenir dans la maison de Dieu, dans la joie. Il est bien de pardonner quand on nous a fait du tort. Amen. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas à l'autre que tu fais du mal, c'est à toi-même. Il est bien de donner à la maison de Dieu du temps, du service et le reste. Il est bien de faire attention à ce qui sort de notre bouche, car il est plus facile de détruire que de construire, hein ? Il est bien de se sanctifier. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Alors il est bien de se sanctifier. Il est bien de faire attention où on met les pieds. Il est bien de ne rien mettre de mauvais devant nos yeux. Il est bien. Il est bien d'être zélé pour cela. Il est bien de prendre du temps avec sa famille. C'est bien. Gloire à Dieu. Pendant 3 mois, vous avez pris du temps avec votre famille. C'est bien. Ça permet parfois de révéler certaines choses. Ça permet de remettre les pendules à l'heure, j'imagine. Il est bien de prendre du temps avec sa famille. Moi, du reste, j'ai pris du temps avec moi-même. Et ça fait du bien de prendre du temps avec soi-même aussi. La Bible parle partout, revenez à vous-même, rentrez en vous-même, sondez vos cœurs, etc. Il est bien de laisser le Saint-Esprit faire cela aussi. Il est bien aussi de se reposer dans la vie. D'ailleurs, je vais terminer par là mon message, parce que je prêche sur le zèle. Et peut-être que de façon excessive, on va dire « Ah, il faut aller, il faut se mettre au boulot, je vais jeûner 40 jours ». Mais vous savez qu'il est bien aussi d'apprendre à se reposer. Il est bien, c'est sage. Il faut être sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Et c'est bien de se reposer. C'est sage de prendre du temps pour se reposer, car Dieu nous appelle aussi à être équilibrés. La Bible dit « Jésus, fatigué du voyage, s'est assis. » Et il a demandé à boire à une femme. Et là, ensuite, il a saisi l'occasion pour lui parler du royaume de Dieu. Il est bien d'être zélé pour le bien que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi, dans sa maison ? On pourrait se mettre debout dans sa présence. On va prier quelques instants maintenant. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci parce que tu es là ce matin, Seigneur. Et tu veux... Finalement, s'il le fallait, remotiver nos vies, relancer nos vies. Seigneur, réarmer la machine de nos cœurs qui peut-être s'est grippée, s'est installée dans une zone de confort préjudiciable. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que le zèle de Dieu, que la sainte jalousie de Dieu vienne brûler dans nos cœurs, vienne embraser nos âmes d'un feu nouveau. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, nous donne d'être zélés pour la justice, d'être zélés pour les bonnes œuvres, d'être zélés pour tout ce qui est bien. Saint-Esprit, nous te disons, sois le bienvenu. Seigneur, viens embraser nos vies d'un feu d'amour divin. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons ce zèle de Dieu. Nous voulons, Seigneur, être dévorés intérieurement pour les intérêts de ta maison. Seigneur, tu vois, parfois on est préoccupé par d'autres choses, alors qu'on devrait être préoccupé d'abord par les intérêts de Dieu, par les intérêts de la maison du Père. Alléluia. Seigneur, donne-nous un zèle intelligent ce matin. Donne-nous un zèle équilibré, Seigneur. Je te prie d'enlever toutes les amertumes. Tu vois, parfois, le zèle amer, les ambitions charnelles, les orgueils qui sont là. Seigneur, que notre zèle soit bienséant, soit dépourvu de toute forme d'amertume, de toute source mauvaise, de tout esprit de dispute, de tout esprit de compétition. Seigneur, nous ne cherchons pas à être meilleurs que les autres. Nous ne cherchons pas à flamber, à paraître. Seigneur, débarrasse ton Église de toutes les scories qui peut-être se sont installées en son sein, en son cœur. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un qui ce matin est découragé, a le moral dans les chaussettes, et comme Élie, et dit « j'ai déployé mon zèle », qui dit « à quoi ça sert ? À quoi ça sert de servir Dieu ? C'est difficile, j'y arrive plus. » Seigneur mon Dieu, je te prie de renouveler le zèle, comme tu as donné un nouveau zèle à Tite. Seigneur, je te prie de donner un zèle nouveau à quelqu'un qui m'écoute ce matin sur le net ou qui m'écoute là dans l'auditoire. Seigneur, un nouveau zèle dans le cœur. une nouvelle passion dans l'esprit, Seigneur. Seigneur, tu dis que ceux qui se confient en toi, ils se renouvellent. Renouvelle, Seigneur, ce matin. Renouvelle-nous, Seigneur, que l'Église redevienne un corps conquérant, conquérant dans l'intercession, conquérant dans le témoignage, conquérant dans le partage de l'Évangile, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Et merci pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Que cette parole, Seigneur, ne soit pas volée par les oiseaux du doute et des raisonnements. Seigneur, mais qu'elle rentre dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Et que ton zèle, que ta puissance, que ton feu soit au milieu de nous. Que le feu de Dieu soit au milieu de nous, Seigneur. Tu dis que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, ranime la flamme dans l'Église. Ranime la flamme dans les rassemblements. Ranime la flamme, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, qu'il y ait une ferveur, une intensité, mon Dieu, pour te servir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, on acclame le Seigneur. Amen, amen.